cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 1er juillet 93.
Puisque la personne humaine est le fruit de tout un développement, de toute une croissance, dont nous sommes responsables. On est responsable de cette formation intérieure de nous-mêmes. Nous sommes le fruit de cet effort constant, de cette conquête constante. Cependant, nous sommes terriblement conditionnés par le milieu dans lequel se développe cette personne, dans lequel nous nous développons nous-mêmes. Ce développement qui a des étapes qu'il faudrait bien préciser, qui serait très intéressant à préciser au plan philosophique, se fait dans la lutte. Alors, précisons, premier milieu, le milieu maternel. À remplacer ce milieu-là. On voudrait bien arriver à le faire artificiellement. Ce serait la grande victoire de la technique et de la science. On n'est pas encore arrivé. Quand on fait une fécondation in vitro et qu'on ne remet pas le tout petit être qui vient d'être conçu dans un milieu naturel, maternel, très très vite, il se développe d'une manière inharmonique. Je ne sais plus exactement au bout de combien de temps, mais ça c'est facile à savoir. Techniquement, on le sait. C'est très significatif, vous voyez. Ça montre que ce milieu maternel est une cause équivoque, comme dit le philosophe, cause analogique. Ça veut dire toujours ce qu'on se demande quand on construit un mur et que le mur est arrivé à 1 mètre de hauteur et que le maçon meurt. Le mur reste là. Il ne bouge pas. Malgré la mort de celui qui l'a construit, il reste à la même hauteur. Tandis que sa causalité univoque, qui porte uniquement sur le devenir, tandis qu'au contraire, si on construit quelque chose, une œuvre, Saint-Jean Éducation, et que celui, ou Saint-Jean Espérance, ou celui qui l'a pensé, qui l'a construit, disparaît. Est-ce que l'œuvre va disparaître ou pas? Si celui qui l'a fait est cause analogique, c'est-à-dire cause de la forme, et non pas seulement du devenir, sa mort, sa disparition, fait que l'œuvre disparaît. Ça, c'est pour comprendre comment un milieu naturel ou artificiel dépend d'une causalité extrinsèque. Il est évident que le milieu maternel pour l'embryon dépend de la mère. Causalité analogique jusqu'au moment où le fruit peut s'isoler de son milieu parce qu'il est mûr. Ici, de fait, il y a une naissance provoquée ou antérieure au moment normal où le fruit est capable de vivre seul. Il faut une couveuse électrique qui prolonge le milieu maternel. Mais on sait que si le petit est né trop tôt, on ne pourra pas prolonger le milieu maternel. C'est très intéressant, ça, au point de vue réflexion philosophique sur la qualité de ce milieu maternel. Et les mères devraient comprendre ça d'une façon très forte. Combien elles sont responsables de la croissance du petit pour toute sa vie. Il y a une responsabilité de la mère qui est extraordinaire. C'est, alors, dans une perspective de sagesse où on a découvert l'existence de l'âme par Dieu, on voit combien Dieu fait confiance à la mère dans cette responsabilité. Plus on avance, plus on voit que ce milieu maternel est capital, qu'il y a une interférence très grande à cause de la fragilité de l'embryon. Le milieu, ensuite, des trois premières années. Vous voyez, là, on peut regarder. Évidemment, là encore, ça varie, hein, suivant la fragilité plus ou moins grande du petit. Mais comparativement aux autres animaux, le petit de l'homme dépend de son milieu maternel, familial, plus grand que tous les autres animaux. À cause de la fragilité du corps humain, à cause de la vulnérabilité du corps humain, à cause de la sensibilité du corps humain. Et c'est la question du toucher qui est la plus grande différence entre l'animal et l'homme. Plus qu'il semble la vue, plus que l'ouïe, plus que l'odorat, jugement d'existence. Le toucher de l'homme qui se fait à travers tout son corps est un toucher qui a une qualité unique. Et ça, c'est par là qu'on reçoit l'influence du milieu. La vue aussi, c'est évident. Mais c'est moins immédiatement. La vulnérabilité à l'égard du milieu. Alors, quand l'enfant grandit, commence l'influence de la parole et de la vue. Déjà, le tout petit enfant, du moins, quand il est né, on sait comment on peut distraire l'enfant. Par le point de vue de la vue. Quand un enfant crie parce qu'il a faim et que le biberon n'est pas fait, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le premier transfert. On essaie de faire que cet appétit instinctif qu'il fait crier soit dérivé par la vision. C'est très curieux, ça. Et quand il est curieux, qu'il voit, il se tait. Et que regardez, comme les lunettes jouent un rôle important pour les gosses. Extraordinaire. Si les parents n'ont pas de lunettes et que un troisième individu qui a des lunettes arrive, je regarde ça. Et pendant un moment, vous voyez, c'est là le transfert. Il est intéressé par quelque chose d'autre et l'instinct de la nourriture s'arrête. Ça ne dure pas très très longtemps. Parce que l'instinct de la nourriture est plus puissant. Oui, c'est comme ce qu'on fait pour le coup de métaphysique le matin, pour le petit déjeuner, tu vois. Un transfert de l'intelligence qui fait qu'on ne pense plus au café et à la nourriture. Mais si le cours est moins intéressant, on revient. Immédiatement. C'est très curieux de voir comment peut se faire ces transferts et comment par le fait même il y a refoulement. Les premiers refoulements, quand on dit qu'il faut plus, qu'il ne doit pas y avoir de refoulement, il y en a tout le temps des refoulements. Pourquoi ? On a 5 sens. Passe de l'un à l'autre. Si la vue ne suffit pas, une mère habile, elle secoue l'enfant, ou elle se met à danser avec, ou elle se met à chanter. Les mamans italiennes font ça admirablement. Alors, on voit bien comment ça fait des transferts et des refoulements. Pas éviter. C'est pas les refoulements qu'il faut éviter. Ce qu'il faut, c'est l'usage de ces refoulements. C'est très différent. Qu'ils soient bons, qu'ils soient élevants. Passer de l'instinct de la nourriture à la vision, c'est un ennoblissement. C'est évident. Vous ne faites pas ça avec le petit chien. Beaucoup moins. Un chien, quand il a envie de manger, vous ne pouvez pas l'arrêter. Un petit enfant, oui. C'est très intéressant. connaissant, ça prouve que il a en lui une capacité de connaissance au-delà de l'instinct qui est beaucoup plus forte que celle de l'animal. Aristote commence, vous savez bien, la métaphysique par dire « il y a un plaisir de voir ». L'enfant a un plaisir de voir. Et ce plaisir de voir est plus fort que le plaisir de la nourriture. Alors là, c'est un transfert qui ennoblit. Les transferts qui ennoblissent sont bons. Les transferts qui n'ennoblissent pas sont mauvais. Ça, c'est la première éducation. J'ai vu la manière dont un grand japonais éduquait sa petite fille qu'il aimait tendrement. Eh bien, instinctivement, il faisait toujours des transports qui ennoblissent. Tandis que c'est pas toujours le cas des mères à l'égard de leur enfant. Mais je voyais en Suisse, dans certains districts particuliers du canton de Fribourg, la Saint-Gine, quand les gosses crient, la sucette à l'alcool. Transfert qui abrutit. Oui. Est-ce qu'on passe du lait maternel ou du biberon à l'alcool, hein? Vous voyez ce que ça fait? Après, pas étonnant qu'à un certain âge, on a des gens pas très évolués. Parce que tout de suite, ce passage qui est très important, parce que je crois que quand on dit que l'éducation des premières années est capitale, où un enfant qui a été abandonné, donc il y a eu ce manque d'amour, et qui est remis à... Je vous ai déjà raconté ce petit épisode qui m'a beaucoup intéressé. Parce que sans être spécialiste de ça, il faut que le philosophe soit attentif à l'éducation. Et pas l'éducation telle que l'a décrit les psychologues. L'éducation que lui-même doit avoir. Parce que autrement, les faits sont transposés dans une vision dialectique. Et c'est plus ça. Ils sont interprétés. Il faut saisir les faits directement. Parce que, autrement, c'est une opinion. Ce n'est plus une expérience. On doit avoir l'expérience de cela. Si on n'a pas l'expérience de ça, on ne peut pas en faire la philo. On a des opinions. Écoutez ce qu'un psychologue dit sur l'éducation des premières années. C'est pas vous qui le faites. Donc, c'est de l'ordre de l'opinion. Et c'est vu à travers une certaine dialectique freudienne qui fait que tout est modifié. Et vous n'avez plus l'expérience. C'est une expérimentation décrite. Et il faut l'expérience directe. Alors, on va pas avoir un jardin d'enfants ici pour que tous les frères aient l'expérience de la première éducation, vous voyez. Mais on peut l'avoir quand même facilement dès qu'on fait un peu de ministère et qu'on est auprès d'enfants et qu'on est attentif à cela. C'est extraordinaire comme les enfants éduquent. Ils éduquent leurs parents et ils éduquent le prêtre, le directeur spirituel de leurs parents. Et on voit alors à ce moment-là combien tout transfert qui élève ennoblit. Tout transfert par le bas diminue. Et arrête l'éducation. C'est pour ça que quand on dit que le refoulement est mauvais, mais non, ça dépend quel refoulement. Il y a des refoulements qui éduquent. Supprimer les refoulements, c'est supprimer l'éducation. C'est supprimer l'autorité. La mère a une autorité sur l'enfant parce qu'elle lui impose un certain règlement de vie. Très vite. Et lui imposer ce règlement de vie, c'est quelque chose de grand. C'est un ordre dans le temps. Ça implique des refoulements, c'est forcé. Ça ne peut pas être autrement. Et c'est pour ça que Freud, c'est univoque à un plan invraisemblable, comme toujours tout développement dialectique. C'est terriblement univoque. Il faut tout de suite voir le point de vue analogique du refoulement, vers le haut, vers le bas, c'est-à-dire le transfert. Donc, être très attentif à l'éducation de la sensibilité, à l'éducation de l'imaginaire, tout transfert, tout refoulement éduque l'imaginaire. L'imaginaire prend, se nourrit de tout refoulement. Quand le gosse crie après le biberon et qu'on prend une petite sonnette et qu'on se met à l'agiter, vous faites un refoulement. Ce refoulement peut être légitime et peut être bon. Dépasser ce petit instinct de nourriture pour écouter, pour entendre une petite chanson, et ça en oublie. L'animal ne le fait pas. Ça exerce et ça éveille son intelligence. Et ainsi de suite. Ou le sourire, ou lui parler avec lui. Le dialogue. L'enfant a besoin du dialogue. Alors que quand vous élevez les enfants en série, vous n'avez plus de dialogue. Alors que la mère a son gazouille avec l'enfant, admirable. Et ça peut durer des heures. Et ça éveille l'enfant. Donc, être très attentif à cette première éducation qui est l'éducation des sensibles, des sensations, de l'imagination et du premier amour, des liens affectifs. Comprenons bien que très vite, l'intelligence est éveillée par les sens. Très vite, la volonté s'éveille. Première éducation, c'est vrai que l'aliment joue un rôle capital dans la toute première éducation, comme le sommeil et comme le réveil. Ça joue un rôle très important parce que la vie végétative au point de départ est très forte et qu'elle ponctue la vie. Mais très vite, c'est la vie sensible qui l'emporte. Vous voyez le passage de la vie végétative à la vie sensible. Et avec la vie sensible, c'est tout de suite l'imagination. Et c'est tout de suite l'affectivité passionnelle. Très vite, les colères. Alors qu'est-ce qu'on va faire des colères? C'est quand même un capital extraordinaire de vie, les colères. Un petit enfant en colère. Est-ce qu'il faut les supprimer? Est-ce qu'il faut les laisser? Est-ce qu'il faut les mesurer? Mais tout le problème qui est très important, puisque c'est la première harmonie entre la sensibilité, l'affectivité, l'éveil du concupiscible, l'éveil de l'irascible. Et l'irascible a une noblesse que n'a pas le concupiscible. Et arriver à montrer l'autorité et la coopération avec l'autorité. Ce se fait tout de suite dès le début. La mère et l'enfant. Et l'intervention du père. Alors ça, Freud est terrible. Et c'est pas juste, hein. Il y a très peu de choses justes en Freud. Je crois que les choses justes de Freud, c'est lorsqu'il a affaire vraiment à des malades. Alors là, on voit la qualité de Freud. Quand il était de Sainte-Anne. Beaucoup plus que la reconstruction, qui est une véritable reconstruction. Freud n'a pas élevé beaucoup d'enfants. Il n'a pas donné de biberon à beaucoup d'enfants. Mais il a construit tout ça. Très facile de reconstruire. Alors qu'il ne faudrait pas reconstruire. C'est avec le dire des mères intelligentes qu'on doit essayer de comprendre cette première éducation. Et surtout pas prendre l'éducation, la dialectique freudienne qui fausse tout. Surtout pas prendre la conceptualisation de Piaget qui fausse tout. Il s'agit de reprendre l'ordre naturel d'un développement et surtout pas une idéologie. Et c'est très important, ça, pour l'éducation première. Or, on devra montrer la grandeur de l'éducation première et le rôle irremplaçable de la mère. Et je dis bien le rôle irremplaçable de la mère. Quand on voit que Plotin a été sevré à 6 ans ou 7 ans, je dis pas qu'il faut imiter ça, mais c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et quand on parle de progrès, dans l'éducation, je sais pas. On fait peut-être des êtres beaucoup, beaucoup plus déracinés. Et cet enracinement premier dans la mer, les catacombes, la naissance et les trois premières années, c'est capital. Et c'est tout point de vue de la cause matérielle. De l'éveil des sens, du sens du milieu. C'est capital. Il faut le préserver, ça. Et on ne le préserve plus. À cause du travail, de l'efficacité du travail. La mère est de moins en moins proche de son enfant. Et on confie ça à d'autres. Où l'éveil affectif ne se fait plus. Vous avez ensuite l'école, même l'école maternelle, c'est l'école. Et l'école agrandit le milieu, et en agrandissant le milieu, fait que la lutte et les rivalités viennent beaucoup plus. Avec les rivalités dans la famille existent. Facilement dépassé par l'amour maternel qui est puissant, qui est premier, que lorsqu'il s'agit en dehors du foyer. N'oublions pas que l'éveil de l'intelligence réclame un très grand amour. Et s'il n'y a pas cet amour, l'éveil de l'intelligence se fera beaucoup plus tard. Et plus il se fait tard, plus l'éveil de l'intelligence. Mettra du temps. Et quelquefois, sera comme vaincu par la puissance imaginative affective. comprends très bien comment il faut essayer de comprendre que le milieu maternel de l'école et puis ensuite de l'instruction et la perturbation du milieu familial par la télévision qui fait entrer au cœur de la famille n'importe quoi, que le petit enfant est curieux, il ne faut pas l'oublier, et que n'importe quelle chose peut mettre des curiosités et des interrogations qui troubleront. Je crois qu'il faut préserver le milieu familial. Il ne faut surtout pas habituer le gosse à la télévision. C'est effrayant, ça. Il n'est pas capable de discerner. Un père de famille me racontait cette histoire d'un gosse qui était élevé à la campagne. Et l'enfant, je crois, avait 6-7 ans. Le père le conduit au cinéma parce que c'était le film sur Jeanne d'Arc, je me souviens encore. Et le gosse, au bout de 3 minutes, dit à son père, il faut partir d'ici. Je lui ai dit, pourquoi ? Tout ça, c'est du mensonge. C'est faux. On n'a pas le droit de le regarder. Le père s'est demandé ce qu'il devait faire. Il me l'a raconté après. Ben, il était habitué à la nature de voir les réalités. Et voit sur le film, ah oui, des choses étonnantes. Mais c'est faux. Ça m'a beaucoup fait réfléchir, ça. Oui. Voir qu'un gosse qu'on conduit au cinéma à 6 ans, 7 ans, parce qu'on dit ce film est beau. Ah oui, mais ce film, c'est quoi ? C'est de l'intentionnalité imaginative plus ou moins poétique. Et le gosse ne se nourrit pas d'intentionnalité. Il se nourrit du réel. Alors vous voyez, ça fait comprendre la perturbation terrible de la télévision dans le foyer, où les parents ne font pas attention du tout. Ils sont dans l'ontologie, les parents. Ils ne savent pas la différence entre l'intentionnalité et le réel. Ils passent de l'un à l'autre en faisant la soupe. Ils oublient que la soupe n'est pas intentionnelle. Ils passent de l'un à l'autre sans aucune intention perverse ou délicate, pas de discernement. Ils vont subir à l'enfant qui, lui, n'aime pas ça. Je crois qu'on détraque toute une civilisation par la télévision. On détraque toute une intelligence par là. C'est terrible parce qu'on ne peut pas préserver l'enfant, ça. On ne peut plus. On est sur une pente glissante qui fait que de plus en plus, on ne pourra plus discerner entre l'intentionnalité et le réel. Et par le fait même, l'intelligence aura une peine énorme de revenir au jugement d'existence. Ça cause, c'est du mensonge, parce que c'est pas le réel. Alors, il y a quelques points comme ça, vous voyez, sur lesquels, au plan philosophique, on devrait réfléchir beaucoup. Alors, l'éveil de l'affectivité, l'éveil de l'instinct, tout le passage de l'instinct de la nourriture et du boire, et puis l'instinct sexuel. Être très attentif à ça, l'éveil. Selon Freud, il n'y a pas de distinction. Autre erreur. Mais la première erreur, je crois, fondamentale dans l'éducation d'aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas de distinction entre le réel et l'intentionnel. On ne fait distinction entre la sensibilité, l'instinct à l'égard du boire et du manger, et l'instinct sexuel. Pour Freud, il n'y a pas de distinction. Alors vous voyez, il n'y a pas de distinction. La nourriture, il faut la donner. L'instinct sexuel implique son aliment. Et donc il n'y a plus de chasteté. Ça n'existe plus. Et ça ne peut plus exister dans l'éducation freudienne. La masturbation est nécessaire, comme la nourriture. Je crois qu'il faut comprendre cela, parce qu'on va vers un monde qui, de fait, non seulement ne touchera plus le réel et sera dans l'ombre, dans un ontologisme absolu. Et au point de vue affectif, ne verra plus que la jouissance. Donc un monde épicurien. Ce que l'Apocalypse annonce, symboliquement, Sodome et Gomorre, l'Égypte. C'est quand même très très curieux que symboliquement, l'Apocalypse l'annonce. L'Égypte, c'est l'efficacité pure. Or, si vous ne distinguez plus le réel de l'intentionnalité, c'est l'efficacité pure, tout le temps. C'est un monde que vous fabriquez. Il n'y a plus de contemplation. La contemplation porte sur le réel et pas sur l'intentionnel. Vous ne pouvez pas contempler et développer la contemplation dans un monde d'intentionnalité. Et vous ne pouvez pas développer la domination de soi qui se fait par rapport à l'instinct sexuel. La domination par rapport à l'instinct de la nourriture, du boire et du manger n'est pas totale. On a besoin de la nourriture, on a besoin de respirer, on a besoin de l'oxygène. Tandis que la domination de soi de l'individu se fait par rapport à l'espèce. L'instinct sexuel relève de l'espèce. Et l'instinct du boire et du manger relève. C'est une distinction qui a totalement disparu au niveau psychologique. Donc, vous ne pouvez plus découvrir la vertu de chasteté. Vous avez la vertu de tempérance. Et vous ramenez la chasteté à la vertu de tempérance. C'est-à-dire que ça ne gêne pas le voisin. L'équilibre. Il faut saisir ce monde devant lequel nous nous trouvons. Et vous voyez que la psychologie ne peut absolument pas répondre. La psychologie est peut-être nécessaire pour une rééducation, mais pas pour l'éducation. L'éducation se fait par le point de vue de la prudence, la découverte de la finalité, l'amitié et la contemplation. C'est la finalité. Alors, comprenons que les milieux dans lesquels nous nous trouvons, plus on s'élève dans ces milieux, plus on est en face d'un ontologisme parfait. C'est-à-dire la non-distinction de l'intentionnel et du réel. La non-distinction entre les instincts et le fait qu'il ne faut pas de refoulement et supprimer tous les refoulements, donc supprimer toute autorité, puisque et donc supprimer toute obéissance. faut le voir avec beaucoup de netteté, ça. Et comprendre que nous devons nous essayer, même si de petits îlots, de petites oasis, retrouver une véritable éducation, une païdéia véritable, chrétienne. Et tout de suite chrétienne, l'éducation existe si elle est chrétienne. Si elle n'est pas chrétienne, elle n'existe pas. C'est bien simple. Elle ne peut pas exister. Elle est emportée par la psychologie. Il n'y a pas d'éducation neutre. Puisque vous ne pouvez pas faire ces distinctions élémentaires. Ce serait, voyez, important de saisir toutes les confusions actuelles dans une éducation dite laïque. Et une éducation dite purement psychologique, qui n'est pas chrétienne. Alors, plus on avance, plus le milieu est pollué. Et plus, alors, si c'est une éducation chrétienne, plus l'emprise du démon est forte. Et plus le discernement entre l'imaginaire démoniaque et l'imaginaire du refoulement et l'imaginaire correct. Vous avez trois zones d'imaginaire que vous devez discerner. Et alors combien c'est difficile quand vous êtes en face de soi-disant exorcisme de distinguer un exorcisme qui est catholique, chrétien tout court, donc catholique. Un exorcisme qui est psychologique. Et tout simplement le développement de l'imaginaire. Je crois que nous devons discerner des zones dans l'imaginaire. L'imaginaire est bon. L'imaginaire du refoulement est déjà pollué. Et nous portons tous celui-là. Personne d'entre nous dit qu'il n'y a pas de refoulement. Pour mettre en boule les psychologues, il faut leur dire qu'on n'en a pas. Je ne sais pas ce que c'est le refoulement. J'ai vu qu'ils étaient furieux. Mais non, il n'y a pas de refoulement. On est lucide, quoi, on sait bien. Et c'est vrai qu'on en a de moins en moins de refoulement. Normalement. Puisqu'on doit assumer de plus en plus les situations dans lesquelles on se trouve. Quand on les assume, il n'y a pas de refoulement. On est de moins en moins énervé devant l'autorité. Et l'autorité s'exerce de plus en plus dans un point de vue de finalité. Et net. L'autorité réclame la netteté, l'imperium. Mais on a des zones. Dès qu'on quitte certains milieux, on voit combien des milieux sont pervertis et combien il y a un jeu d'imaginaire affolant. Là, il faudrait prendre des cas très précis et se poser la question, est-ce que c'est bon ou mauvais ? Vous voyez, je prends ce cas qui m'a été dit d'un psychanalyste. Pas tellement freudien, mais un psychanalyste. Et influencé par Freud. Parce que je crois que tous les psychanalystes sont influencés par Freud. Tôt ou tard. Alors, dans une abbaye. Un père abbé assez majestueux. Physiquement. Donc, les novices avaient peur de lui. L'autorité. Alors un psychanalyste a été appelé pour essayer de supprimer cette crainte révérentielle. qu'il a trouvé une meilleure. Dire au père abbé, mettez-vous à quatre pattes et les navires vont faire le saut de mouton dessus. Authentique, ça s'est fait. Est-ce que c'est éducatif? Mais ça, ou est-ce qu'au contraire, c'est faire une mélasse complète et le transfert par le bas? Ramener l'autorité, tout simplement dire, mais quoi, mais non, c'est parce que il est plus âgé que vous, il est plus grand, il est majestueux, alors vous êtes impressionné par ça, pas du tout, mettez-le à quatre pattes, et alors il sera plus petit que vous, et à ce moment-là vous le regardez d'en haut, et vous croyez qu'après, le sens de l'autorité de l'abbé sera en oubli. Et vous croyez qu'à partir de là, vous comprendrez ce que c'est que la véritable obéissance. Et le jeu qui intervient comme ça, est-ce que le jeu ne fait pas tout troubler le point de vue du fatiguré et le point de vue d'adjuré? Une éducation se fait au niveau de l'adjuré et pas du fatiguré. Confondre les deux, c'est empêcher l'éducation. Parce que du côté du fatiguré, l'autorité, c'est la compétence. Du côté de l'adjuré, l'autorité, ce n'est pas la compétence, surtout l'autorité religieuse. C'est autre chose, une autorité qui vient de Dieu. Tu n'aurais aucune autorité si elle ne te venait d'en haut. Or aujourd'hui, on fait venir l'autorité d'en bas. Parce que c'est une autorité de compétence. Une autorité de compétence, je comprends très bien qu'on fasse un concours. Celui qui est capable de réaliser ça. Mais quand il s'agit de l'autorité religieuse, c'est plus un concours. Vous voyez, je prends quelques points chauds, parce que ce sont des points chauds, ça, qui pour moi sont essentiels à toute éducation réelle et chrétienne. Arriver à faire ces discernements-là. Bon, alors vous voyez, plus on s'élève vers l'éducation et l'instruction, plus c'est complexe et difficile. Et combien aujourd'hui, on est en face, puisqu'il n'y a plus la finalité, on est en face d'un mélange constant entre le fatchéré et l'adjuré, entre l'intentionnalité et le réel, entre le point de vue des différentes zones d'imagination et la diversité des instincts et des passions. Je n'insiste pas plus, mais je voudrais en terminant, puisque certains me l'ont demandé, voir tout simplement, on a étudié progressivement ce qu'est le « je suis ». Première dimension, j'ai conscience d'exister. Vous voyez, dans la conscience d'exister, il y a à la fois la substance et l'essai, l'acte. Et c'est le pos qui unit substance et acte dans cette conscience que j'ai d'exister. Deuxièmement, recherche de la vérité. La structure de toute personne humaine à des niveaux différents, puisque la vérité implique des niveaux différents. Troisièmement, capacité d'aimer. Des niveaux différents. L'amitié de... Oui, alors qu'on voit au point de vue éducatif. Vous voyez, là c'est la coupe verticale. Hein. Donc je vois les dimensions. Puis la coupe horizontale, montante, éducation. Hein. Donc ici, c'est vertical, fait la plombe. Tout ce qui est impliqué dans le je suis. Et toutes les dimensions de la personne humaine. La personne humaine implique tout cela. La conscience de mon autonomie, de ma distinction des autres et de mon identité. Alors cette identité, elle prend des dimensions différentes puisque cette autonomie, elle se retrouve dans la recherche de la vérité, dans la capacité d'aimer. Quatrièmement, la prudence. Organisation immanente. Mon organisation. Gérer mon capital, ma prudence. Je sais toutes les capacités qui sont en moi. Et c'est la prudence qui fait ça. J'ordonne les moyens que je peux utiliser. La prudence est à tous les le niveau de l'intention, le niveau du conseil, le niveau du choix, le niveau de l'imperium. Tout ça, c'est l'organisation interne de tous mes moyens, de toutes mes capacités. Cinquièmement, capacité de transformer le milieu humain, le facere, dans toutes ses dimensions. Ça fait partie de la personne. C'est ici qu'il y a le travail. Alors, il y a un lien entre la vérité et le travail. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a un travail intellectuel. Comprenez bien. Donc le travail se retrouve à toutes les dimensions, puisque par le travail, c'est le devenir. Ici, c'est la croissance. Tandis que le travail et le faturé me donnent le sens du devenir. Et la prudence me donne le sens de la croissance. C'est pas la même chose. Le travail... Il implique le temps. Et ici, la durée. Il faut distinguer les deux. Le corps. Sixième dimension, le corps. Pourquoi sixième dimension ? Parce que le corps, nous l'avons dit, c'est découvrir en nous ce conditionnement substantiel. Et ce conditionnement substantiel se répercute partout. Jusqu'ici. Puisque conditionnement substantiel, ça fait que toutes ces dimensions impliquent une limite par le conditionnement. Le corps me limite. C'est pour ça qu'on dira si facilement que le corps est la prison de l'âme. C'est pas juste, mais il y a quelque chose de vrai. Sens des limites. je vais te violenter. À cause des limites. La vulnérabilité, la capacité de souffrir. Tout ça est présent dans le corps. Parce que le corps est vu. Le fat fury me donne le sens du corps. La prudence me donne le sens du corps. La capacité d'aimer me donne le sens du corps. La recherche de la vérité me donne le sens du corps. Et mon autonomie substantielle aussi. Et enfin, septième dimension, l'ouverture à l'infini. Le dépassement. Le dépassement. À tous les niveaux. Et ce dépassement, j'aurai la réponse de cet infini vers le sens, l'attitude religieuse. La vertu de religion. Ayant découvert l'existence du Créateur, cet infini appelle l'existence du Créateur. Voilà les sept dimensions de la personne humaine. Nous sommes arrêtés à la sixième, puisque pour la septième, il faut découvrir l'existence de Dieu. Donc, alors voyez le nombre 666, hein, c'est intéressant de voir comment peut se faire ça, puisque de fait, les limites et le fatuité peut tout reprendre par le bas.
La politique pénitentiaire.
La quoi ?
La dimension politique pénitentiaire.
La dimension politique sera avec la prudence. Oui, je crois pas que. Je crois que la dimension politique dépend de la prudence. Et la prudence politique est quelque chose de nouveau, c'est vrai. Mais c'est un épanouissement. C'est pas vraiment une dimension immédiate de la personne humaine. Oui, tu sais, c'est ce qu'on voit. L'homme politique qui se jette dans la politique et qui ne fait plus que de la politique perd sa personnalité. Et la fonction devient telle que la fonction dépasse la personne. Ici, je regarde la formation de la personne. Et ça, c'est l'éthique. C'est la prudence. Alors, c'est évident, la dimension politique, je dois la voir. Mais je ne peux pas dire que c'est une nouvelle dimension. Je ne crois pas. Point de vue de la personne, je prends le je suis, qui est une nouvelle dimension d'extension, tout à fait d'accord. Ça, c'est toute la question de la finalité. Puis-je finaliser ma vie par le point de vue politique? C'est la grosse question. Alors, les finalités, vous les avez ici, vous les avez ici, et tout le reste ici. C'est pour ça que quand on prend comme ça, il faut varier, parce que la prudence ne finalise pas. La prudence ne finalise pas. Finaliser par un homme prudent, c'est terrible. Là, la transformation de l'univers ne finalise pas. Le corps, l'athlète ne finalise pas. Alors, de nouveau, la finalité ici. Et si vous êtes attentif, vous devez mettre des couleurs différentes. On va s'amuser. C'est vert, ça. C'est l'espérance. Puis alors, le point de vue du conditionnement, ici ça joue de façon extraordinaire, avec des dimensions différentes, il y a trois dimensions, trois conditionnements très nets, prudence, art, travail, corps. Il y en a trois. Six, deux. En attente du troisième. Puisque celui-ci, troisième, puis l'autonomie. Je crois que vous pouvez par là comprendre. Et alors, avec ce que je disais hier au soir, comment ces sept dimensions, pour le théologien et dans la théologie mystique, ces sept dimensions sont les sept attentes de l'homme nouveau. Par les sept dons du Saint-Esprit. C'est pas à cause des sept dons du Saint-Esprit que je mets sept. Hein. Et c'est de fait comme